Bonjour à tous, il est 11h, vous écoutez Fréquence Mistral et on va partir dans l'espace, espace horizon inaccessible avec notre ami Jean-Jacques Ibos. Une période un peu particulière puisqu'il y a très exactement 50 ans, trois Américains étaient dans l'espace. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Alors Jean-Jacques, nous avons laissé le mois dernier les Américains de la NASA finaliser leur programme de préparation au débarquement sur la Lune avec la réussite d'Apollo 10. Apollo 11 est donc l'étape majeure.
Exactement. Le temps vient maintenant de concrétiser ce programme en tenant le calendrier fixé en 1961 par le président Kennedy. Le 16 juillet 1969, à 6h30, les trois astronautes désignés pour cet événement historique quittent le bâtiment où ils ont passé la nuit et, revêtus de leurs scaphandres, se dirigent vers la fusée Saturne V. Leur objectif est clair, marcher sur la Lune et en revenir. C'est une mission opérationnelle. L'aspect scientifique est ici secondaire. Ils se limitent à rapporter quelques cailloux et à déposer deux instruments. Neil Armstrong, le commandant de bord, Michael Collins, le pilote du module de commande Columbia, hommage à l'obus de Jules Verne, Columbiad, et Edwin Buzz Aldrin, second, pilote du LEM Eagle, s'installe dans la cabine Apollo. 1 million de personnes est venu à Cap Canaveral assister en direct au décollage Saturne V. Un camelot astucieux a vendu pour $1 un certificat de présence à ces heureux spectateurs. 10 000 personnes, dont 3 000 journalistes, se trouvent sur l'esplanade d'honneur, installée à 6 kilomètres du pas de tir 39A. Parmi elles, l'ancien président des États-Unis, Lyndon Johnson, ainsi que Herman Oberth, l'un des pionniers de l'astronautique. On estime à 600 millions, de par le monde, le nombre de téléspectateurs qui va suivre cette aventure. Quant aux auditeurs, sur toutes les radios de la planète, leur nombre est incalculable. Il est 9h32, heure de Cap Canaveral, 14h32, heure de Paris, quand de ce pas de tir 39A s'éloigne. Il s'élance vers l'objectif. Moins de 2 minutes après le lancement, Saturne V est à 92 km d'altitude et parcourt 10 000 km en une heure. Les 5 moteurs du deuxième étage les amènent à 185 km et celui du troisième les met sur leur première orbite autour de la Terre. Ils volent à 26 600 km/h. Le train spatial ne pèse plus que 5% de sa masse de départ. Le réalimage du troisième étage les arrache de l'attraction terrestre et à 39 600 km/h, ils commencent leur périple de 3 jours vers la Lune. L'ensemble de modules de service au milieu de commande se sépare du troisième étage, se retourne et vient s'amarrer au module lunaire. Le troisième étage est alors désorbité, et le vaisseau Apollo 11 poursuit seul sa course vers l'orbite lunaire. À T0 plus 75 heures, le moteur du module de service place le train lunaire en orbite autour de la Lune. Après la réussite de la mise en orbite, les trois astronautes peuvent profiter de la vue sur la face cachée de la Lune. Quelle vue spectaculaire, dit Armstrong. À chaque passage au-dessus de la mer de la Tranquillité, une zone repérée par les sondes lunaires du programme Lunar Orbiter et par les équipages d'Apollo 8 et 10, ils vont scruter la zone de leur prochain atterrissage, tout en préparant le LEM à cette mission. Le lendemain, 19 juillet, les deux astronautes quittent le module du commande à 18h47 heure de Paris, soit 100 heures après le décollage, au cours de leur 13e orbite. Les deux éléments se séparent. Michael Collins reste en orbite à bord du commande module Columbia et fait une inspection visuelle d'Eagle qui vole en formation pendant quelques minutes autour de Columbia. Ces deux compagnons entament à 20h05 leur descente vers le sol lunaire. À 21h02, ils allument le moteur de freinage d'Eagle et amorcent leur descente de 15 km et de 15 minutes vers la surface. C'est l'ordinateur de bord qui contrôle la poussée et la trajectoire du LEM, qui vole sur le dos, hublot vers le ciel. Houston, nous répétons, vous êtes go pour l'alunissage. Et la descente commence. Mais une alarme orange se déclenche. Alarme programme, dit Armstrong. À Houston, on a analysé la panne et le spécialiste du pilage automatique a réalisé qu'il s'agit d'une saturation d'ordinateur de bord. Mais comme il continue de traiter en priorité des informations du radar de descente, Houston autorise la poursuite. À 5000 mètres d'altitude, le LM bascule vers l'avant et Armstrong voit l'horizon lunaire. Mais une autre alarme se déclenche. Houston confirme que c'est une alarme du même type et la descente peut continuer. À 700 mètres d'altitude, Armstrong se rend compte que le pilote automatique les amène vers un grand cratère rempli de gros rochers. Il prend les commandes en manuel, penche le LM en avant et survolant le cratère comme avec un hélicoptère, à la recherche d'un terrain plat. Ils sont à 200 mètres du sol quand Armstrong déclare « Bon, on dirait un endroit correct ». Il cabre le LM vers l'arrière, il ne leur reste qu'une minute de carburant. Aldrin informe son commandant. Altitude 13 mètres, vitesse de descente 1 mètre par seconde, on commence à soulever de la poussière. Armstrong à Houston. Recueillons un peu de poussière. Légère ombre, descend, dégageons un peu sur la droite, vers l'avant maintenant. Houston, 30 secondes. Et après 5 secondes, Aldrin. Lumière de contact. Houston, go. Armstrong, je coupe les gaz. Ok, moteur arrêté. Houston. Nous notons Hegel. Vous êtes tout à fait en bas. Et Armstrong dit, Houston, ici la base de la tranquillité. Eagle s'est posé. Houston, bien reçu les gars. Vous avez fait un magnifique job. Tranquillité. Il y a ici une bande de gars sur le point de tourner de l'œil. Nous respirons enfin. Merci à vous. L'heure historique de votre alunissage est 4h17min42s post-méridien. Heure de Houston, soit 16h17 heure de Houston. Il y a un tas de visages souriants dans la salle maintenant et partout dans le monde. Il est 21h17 à Paris, ce 20 juillet 69. Apollo 11 avait décollé 100h 4 minutes plus tôt. La mission n'a pris que 39 secondes de retard sur l'horaire prévu. Mais le pouls de Neil Armstrong est monté à 156 pulsations par minute pendant le posé. Si Armstrong avait suivi les consignes de l'ordinateur, il aurait largué la base du module lunaire et aurait rallumé les tâches de remontée, faisant avorter cette mission. Et si les astronautes avaient suivi aveuglément le plan de vol mené par l'ordinateur de bol, ils se seraient posés dans un cratère encombré de très gros rochers, car une petite erreur de navigation, due à cet ordinateur, les avait amenés 4,5 km du site prévu. Mais Armstrong avait déjà traité d'autres problèmes aussi hardis dans sa carrière, et c'est pour sa maîtrise de toutes les situations qu'il avait été sélectionné pour cette mission. Rappelons-nous que la puissance de calcul embarquée par Apollo était bien moindre que celle disponible aujourd'hui sur un smartphone, et que les programmes étaient enregistrés sur des cassettes, que les astronautes chargeaient l'un après l'autre dans le lecteur. La mémoire du calculateur de guidage ULM fait 76 kilooctets. Aujourd'hui, une simple requête sur Google mobilise en quelques secondes plus de puissance informatique qu'il en a fallu pour envoyer un homme sur la Lune. Pendant ce temps, Michael Collins, en orbite autour de la Lune, tente à chaque passage de repérer où sont ses coéquipiers. Mais comme le LM ne s'est pas posé à l'endroit prévu, Collins ne connaîtra leur position qu'au retour des explorateurs. Le plan de vol prévoyait une période de repos de 4 heures avant la sortie sur la Lune. Mais 2 heures après le posé, il décide de faire la sortie avant d'aller se reposer plus longuement au retour, avant le décollage, et se prépare à leur mission, marcher sur la Lune, en suivant les centaines d'instructions prévues dans le programme de débarquement qui contient 184 pages. Ranger la cabine et revêtir leur scaphandre leur prendront 3 longues heures. L'exiguïté de la cabine et la taille de leur équipement, le PLSS, le Portable Life Support System, fait qu'au cours de cet habillage, ils vont fermer 2 interrupteurs qui auraient dû rester ouverts. Pendant ce temps, tous les commentateurs des innombrables chaînes de télévision et de radio qui couvraient en direct l'événement ont dû faire preuve de créativité pour tenir leurs auditeurs en haleine, car personne ne s'attendait à ce qu'il s'écoule autant de temps entre le moment où les astronautes ont annoncé le début de leur préparation et la sortie. Après avoir essayé la radio de leur scaphandre, Armstrong plaisante. « Bon, c'est le moment de faire un peu de gymnastique. » Il dépressurise la cabine, ce qui va prendre encore 25 longues minutes. À 3h39 heure de Paris, ils ouvrent la porte du LEM et contemplent la Lune. En tant que commandant de bord, Armstrong sort le premier à reculons du LEM sur la passerelle, baptisé « Front Porsche », guidé par Aldrin. Sa première action, une fois sur le Porsche, est de jeter un sac contenant les restes de leur panier repas, d'autres détritus et des objets devenus inutiles dont il faut alléger le module de remontée. Tout commandant de bord du premier vaisseau d'exploration extraterrestre de l'histoire qu'il est, son premier acte est de sortir la poubelle. Un geste peu écolo, mais c'est une notion inconnue à l'époque. Ok Houston, je suis sur le porche. Il est 3h49 à Paris. Puis il descend le premier, l'échelle de 3,60 m située sur une des pattes de cet étrange insecte. Après le premier barreau, il ouvre une trappe dans laquelle se trouvent les outils nécessaires pour les prélèvements de sol, ainsi qu'une caméra de 16 mm en noir et blanc qui va filmer le débarquement sur la Lune. Et après avoir descendu les 9 barreaux de l'échelle avec un petit saut de 90 cm de haut, il pose ses deux pieds dans la coupelle qui sert de patin d'atterrissage. Je suis au pied de l'échelle. Les patins du LEM se sont enfoncés d'environ 2,5 à 5 cm. En voyant de près la surface, celle-ci semble constituée de grains très fins. Elle ressemble à de la poudre. Armstrong reste attaché à un filet que dérouille Aldrin. Il lève alors le pied gauche et le pose sur la surface lunaire. Le monde entend alors cette phrase « One small step for man, one gigant step for humanity ». C'est un petit pas pour l'homme, un grand bond pour l'humanité. Il est 3h56 23 secondes heure de Paris. On est à 109h43 23 secondes du décollage. Cette déclaration n'a pas été préparée par la NASA, ni par aucune agence de communication. La NASA laissait totalement libre les astronautes d'exprimer leurs sentiments. Et Neil y aurait en pensé pendant la préparation de sa sortie. Mais il y a eu, et il y a peut-être toujours, une petite polémique autour de cette phrase. Certains ont entendu un petit pas pour l'homme, avec un grand H, d'autres un petit pas pour un homme, avec un petit H. Un mot qui en change toute la signification. Interrogé maintes fois à ce sujet, Neil Armstrong a confirmé avoir dit un petit pas pour l'homme. En France, malgré l'heure très matinale ce 21 juillet, des millions de personnes se sont levées cette nuit-là pour suivre en direct ce fantastique exploit, dont votre serviteur. Ils seront 500 à 600 millions dans le monde fascinés par cet événement, soit à peu près un quart de l'humanité. Une seule personne sera privée de ce spectacle, Michael Collins, en orbite autour de la Lune, côté face cachée à ce moment-là. Le rêve était tel sur Terre que l'on pensait qu'en l'an 2000, on pourrait aller passer ses vacances sur la Lune. Une fois à la surface, Neil commande ce qu'il voit. Vu de près, la surface a un grain très fin. On dirait pratiquement de la poudre. Elle adhère légèrement à l'extrémité de ma botte. Il se défait du filin et l'utilise pour descendre le matériel que lui fait passer Aldrin depuis la cabine, dont le seul appareil photo adapté à l'environnement lunaire, un Hasselblad 70 mm. Neil Armstrong l'installe sur sa combinaison et va prendre de nombreuses photos du sol lunaire et du LEM, dont l'assemblage constituera le premier panoramique pris à la surface de la Lune. Cette première photo montre le pied du LEM, l'horizon lunaire, ainsi que la poubelle jetée par l'astronaute. Après plusieurs rappels du responsable de la mission à Houston, Armstrong va collecter quelques échantillons de roches avec sa pelle télescopique, qu'il met dans sa combinaison pour pouvoir ramener un morceau du sol lunaire, un échantillon aléatoire, au cas où la mission serait interrompue brutalement. Pour ce premier prélèvement, Armstrong collecte environ 1 kg d'échantillons, dont une brèche de 250 grammes. 19 minutes après Armstrong, Buzz Aldrin commence sa descente du LEM. Gardant toujours le sens de l'humour, il informe son commandant qu'il fait attention à ne pas claquer le verrou en sortant. « Une très bonne idée !» lui répond Neil. Il pose à son tour le pied sur la Lune. Il descend l'échelle plus aisément, fort de toute fraîche expérience acquise par Neil qui le photographie en lui disant « C'est quelque chose, non ? Quelle vue magnifique !» Et Buzz confirmera « Une magnifique désolation !» Buzz Aldrin, pendant la préparation de cette mission, était persuadé qu'il serait le premier à poser le pied sur la Lune. Car dans toutes les missions précédentes, le commandant de bord, Armstrong, pour Apollo 11, restait à bord, le responsable des missions faisant les sorties dans l'espace. Mais au retour d'Apollo 9, le chef du corps des astronautes, Dick Stanton, arguant que la position dans le LEM du commandant de bord facilitait sa sortie en premier, disait à Neil Armstrong pour le premier pas. Autre raison, non officielle, la plus grande maîtrise de soi de Neil Armstrong. Hormis celle prise par la caméra du LEM, il n'y a qu'une photo de face de Neil Armstrong sur la Lune. C'est son reflet dans les viseurs dorés d'Aldrin lorsqu'il a pris son coéquipier en photo. Et la célèbre empreinte de pas n'est pas celle d'Armstrong, mais celle d'Aldrin. Car si Aldrin avait en charge de photographier le terrain et le LEM, après avoir récupéré l'appareil utilisé par Armstrong, il ne fit qu'une seule photo de son chef de mission, occupé à décharger les instruments scientifiques du coffre du LEM. Les astronautes avaient pour consigne de ne pas s'éloigner à plus de 30 mètres du LEM. Ils déposent la caméra installée sur le LEM et la positionnent une quinzaine de mètres du vaisseau pour que les téléspectateurs puissent suivre leurs travaux. Ils déploient ensuite ensemble un drapeau américain, réalisant son implantation avec quelques difficultés, et le saluent. Ils dévoilent une plaque sur laquelle est écrit « Ici, des hommes de la planète Terre ont pris pied pour la première fois sur la Lune, juillet 1969 après Jésus-Christ. Nous sommes venus dans un esprit pacifique au nom de toute l'humanité. » Suivra une communication de 2 minutes avec le président des États-Unis, Richard Nixon, en direct du bureau ovale de la Maison-Blanche, qui leur déclarera « En ce moment inappréciable de l'histoire de l'humanité, tous les peuples de la Terre se sentent sincèrement unis. Unis dans la fierté que tous les hommes tirent de ce que vous avez fait. » Les deux astronautes n'avaient pas été prévenus au préalable de cette conversation et Neil, plus tard, dira que cela n'avait pas facilité le respect du planning, jugé déjà très serré. Aldrin fait des mouvements de gymnastique en faible gravité, un peu gauche tout de même, tout en suivant les conseils de Houston en disant de faire attention où nous mettez les pieds. Une chute pouvant avoir des conséquences catastrophiques. Ceci pour voir si les déplacements en scaphandre étaient aussi difficiles sur la Lune que ceux simulés sur Terre, malgré les dispositifs censés compenser la différence de pesanteur. 1/6 seulement sur la Lune. Et cette expérience, les petits sauts à pieds joints ou de kangourous, ou de côté, pour se déplacer ou ramasser des objets, ont montré que tout était bien facile sur la Lune. Ils collectent un premier lot de roches lunaires au cours de leur excursion de 400 mètres, en ne s'éloignant au maximum que de 40 mètres du LEM. Les astronautes déposent ensuite 2 instruments scientifiques, un sismomètre et un réflecteur laser, équipés de miroirs trièdres, qui renvoient toujours la lumière dans la direction d'où elle vient. Cela permettra de mesurer à quelques centimètres près la distance Terre-Lune et de confirmer que la Lune s'éloigne de la Terre à la vitesse de 4 cm par an. Neil Armstrong laisse sur la Lune 2 petites pièces de l'avion des frères Wright, dont il était admirateur, ayant vécu à proximité de Dayton, ville de ses aviateurs. Aldrin réintègre le LEM à l'issue d'une sortie d'1h42. Armstrong le rejoint 13 minutes plus tard. Il est resté 2h13 sur le sol lunaire. Ils enlèvent leur scaphandre et se restaurent. Au total, 21,7 kg de roches lunaires sont rapportées par Apollo 11. Harrison Schmitt, géologue à la NASA et futur marcheur lunaire d'Apollo 17, dira que les choix d'Armstrong étaient les meilleurs qui pouvaient être faits pendant cette mission. Mais en enlevant son sac à dos, Aldrin a cassé un interrupteur. Et c'est celui qui commande le moteur de remontée. Il en informe Houston, qui répond de ne toucher rien pour l'instant, le circuit étant bien hors tension. Dernière action sur la Lune avant le départ, débarrasser le module de remontée de tout ce qui ne sert plus, dont leur équipement lunaire. Et encore une fois, Armstrong sort les poubelles, sous l'œil de la caméra. Le sismographe déposé quelques heures plus tôt enregistre l'impact de ses équipements sur le sol lunaire. Prévenu par Houston, Armstrong répond « On ne peut plus rien vous cacher ». Les astronautes commencent alors la période de repos prévue dans des conditions de confort plus que précaires. Armstrong dormant en équilibre sur le capot du moteur de remontée, les pieds calés dans une sangle pour rester à l'horizontale. Aldrin s'est mis en chien de fusil autour du capot, dans le froid, 16 degrés, et la lumière, celle tamisée d'un clair de terre, et une autre plus forte venant du tableau de bord. Aucun ne dormira les 8 heures du programme prévu. Et comme Houston reste en communication avec eux pour traiter tous les aspects liés au redécollage, leur repos a été passablement perturbé. À leur réveil, les astronautes apprennent que Houston a résolu les problèmes. L'ordinateur de bord avait été saturé pendant la descente par des informations envoyées par le radar de remontée. Le radar de descente sera donc débranché pendant la remontée. Bien que le LEM n'ait toujours pas été repéré par Collins, la NASA a estimé sa position à 200 mètres près. Et les ordinateurs ont été reprogrammés pour le rendez-vous. L'ordre de décollage est donné avec humour. Houston, vous êtes go pour le décollage. Aldrin, bien compris, on est numéro 1 sur la piste. Le moteur de remontée se met en marche, tandis que des boulons explosifs séparent le module de remontée de celui de descente. Le drapeau américain, si difficilement installé, est soufflé par les gaz du moteur, qui déchire aussi les protections thermiques du module de descente. Il est 18h54. Le premier séjour de l'homme sur la Lune a duré 21h36. L'aigle a déployé ses ailes, lance Armstrong. C'est vraiment silencieux, commenta Aldrin. Après 2 minutes, le LEM est à 4000 mètres d'altitude et dépasse 1000 km/h. À 10 minutes, il atteint sa vitesse de satellisation et commence la poursuite de la cabine Apollo, dans laquelle ils avaient attendu Michael Collins, qui dut manœuvrer son module de commande pour qu'il soit sur la trajectoire de retour du LEM. Les radars des deux vaisseaux se détectent au bout de la deuxième révolution et 3 heures après le décollage, Armstrong rappelle Collins. « Ok, je viens de te voir briller derrière la lumière du soleil. » Ce dernier lui répond « Mais dites donc, vous n'avez plus de train d'atterrissage ?» 40 minutes après, il s'arrime du premier coup, les vaisseaux volant à plus de 6700 km/h, malgré des moteurs d'altitude qui crachent dans tous les sens. « Ils ont fait cette manœuvre comme on met un vieux chapeau !» s'exclame Werner von Braun. La porte de la cabine ouverte, Armstrong et Aldrin font passer à Collins des boîtes à échantillons. Puis le LEM est abandonné en orbite lunaire, et le 22 juillet, à 5h58 heure de Paris, le module de commande quitte l'orbite lunaire. Après un vol retour de 71 heures sans histoire, le 24 juillet, à 16h50 heure de Paris, la capsule amerrit dans l'océan Pacifique et est récupérée par les équipes embarquées sur le porte-avions USS Hornet, rebaptisé en l'occasion Hornet Plus 3. Leur épopée historique a duré 8 jours, 3 heures et 18 minutes. Ils ont parcouru 1 million et demi de kilomètres dans l'espace. À Houston, un écran affiche « Mission accomplie ». Cette mission, bien sûr, mais aussi la réalisation du défi lancé par John Fitzgerald Kennedy 8 ans plus tôt. Avant d'amerrir, l'équipage enfile une combinaison biologique étanche pour des raisons sanitaires, personne ne sachant si les astronautes n'allaient pas ramener sur Terre des germes pathogènes. Sur le porte-avions, ils sont dirigés dans une cabine spéciale, le Mobile Quarantine Facility, un module de 10 mètres de long pouvant accueillir 6 personnes pour son placement en quarantaine. Un médecin et un technicien de la NASA partageront leur isolement. Des prélèvements de peau avaient été faits sur les 3 astronautes afin de vérifier au retour qu'ils n'avaient pas subi de modifications. Et cette période de quarantaine sera supprimée après Apollo 14. Et c'est de leur cabine, à travers une épaisse vitre, qu'ils recevront les félicitations du président Nixon, venu sur le porte-avions leur apporter les félicitations du peuple américain et du reste du monde. Il dira que, grâce à eux, le monde était devenu plus grand et plus uni que jamais. Les échantillons de roches lunaires, qui ont été rangés par les astronautes dans 2 conteneurs distincts, sont transférés par 2 avions différents au Lunar Receiving Laboratory dans le Johnson Space Center à Houston, où ils arrivent le 25 juillet. Toutes les autres roches lunaires à venir seront stockées dans ce bâtiment. Le module et ses occupants intègrent ce bâtiment le 28 juillet et n'en ressortiront que le 10 août, avant de pouvoir être fêtés en héros lors d'une gigantesque parade sur Broadway le 13 août et d'entamer une tournée triomphale de 36 jours, visitant 24 pays, serrant près de 25 000 mains. Ils sont reçus en France par le président Georges Pompidou le 8 octobre et se verront offrir à chacun un module lunaire en or de 846 grammes, réalisé par le bijoutier Cartier, financé par une campagne publique lancée par un grand quotidien français. Neil Armstrong a donné le sien au Armstrong Air and Space Museum de Wapakoneta, sa ville natale, où il sera volé en 2017. La maison Cartier a acheté celui de Michael Collins en 2003 pour $56 000. Celui de Buzz Aldrin a été mis aux enchères en 2017 et s'est vendu $149 000. De l'avis des astronautes, cette tournée mondiale, le Gigant Leap Tour, équivalent à 2 fois le tour du monde, fut plus éprouvante que le vol spatial lui-même. Le module de commande d'Apollo 11, seul élément de la gigantesque fusée Saturne V et du train spatial à être retourné sur Terre, est exposé au Smithsonian National Air and Space Museum à Washington. Prévoyant le pire pour cette première mission, Richard Nixon avait en main un discours rendant hommage aux héros disparus. Une autre anecdote signée dans Sapiens de Yuval Noah Hariri. Les astronautes faisaient des stages de survie dans des environnements extrêmes au cas où leur atterrissage ne se passerait pas comme prévu. Au cours d'un de ses entraînements, dans un désert de l'Ouest américain habité par une tribu indienne, Neil Armstrong et Michael Collins rencontrèrent un vieil indigène américain. L'homme leur demanda ce qu'ils fabriquaient là. Ils répondirent qu'ils faisaient partie d'une expédition de recherche qui allait bientôt explorer la Lune. Quand le vieil homme entendit cela, il resta quelques instants silencieux, puis demanda aux astronautes s'ils pouvaient lui faire une faveur. « Que voulez-vous ? » ?»« Eh bien, fit le vieil indien, les gens de ma tribu croient que les esprits saints vivent sur la Lune. Je me demandais si vous pouviez leur transmettre un message important de la part des miens. » « Et quel est le message ?» demandèrent les deux astronautes. L'homme marmonna quelque chose dans son langage tribal, puis demanda aux astronautes de le répéter jusqu'à ce qu'il l'ait parfaitement mémorisé. « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?»« Je ne peux pas vous le dire. C'est un secret que seuls sont autorisés à savoir notre tribu et les esprits de la Lune. » De retour à la base, les astronautes ne ménagèrent pas leur effort pour trouver quelqu'un qui sût parler la langue de la tribu et le prièrent de traduire le message secret. Quand ils répétèrent ce qu'ils avaient appris par cœur, le traducteur partit d'un grand éclat de rire. Lorsqu'il eut retrouvé son calme, les astronautes lui demandèrent ce qu'il serait voulu dire. L'homme s'expliqua. Ce qu'ils avaient méticuleusement mémorisé voulait dire « Ne croyez pas un seul mot de ce qu'ils vous racontent. Ils sont venus vous voler vos terres. » Voyons maintenant ce que sont devenus nos astronautes. Neil Armstrong. Il est né en 1930, il passe son brevet de pilote à 16 ans et s'engage dans l'aéronavale, qui finance ses études d'ingénieur. En 1951, il part combattre en Corée. Il rentre ensuite comme pilote d'essai à la NACA, le prédécesseur de la NASA, et volera sur le X-15, approchant à limite de 100 km d'altitude et 7000 km/h. Neil Armstrong a participé au programme Gemini, volé pour la première fois sur Gemini 8 en 1966, où il parvient à maîtriser le roulis de l'ensemble du premier rendez-vous spatial. Il est nommé commandant de réserve de l'équipage de réserve d'Apollo 8, puis commandant de bord d'Apollo 11. Neil Armstrong ne participera à aucune autre mission spatiale. Il deviendra professeur d'ingénierie aérospatiale à l'université de Cincinnati, puis en 80, il créera une société de programmes informatiques pour la maintenance des avions, Computer Technology for Aviation, en plus d'être conseiller d'administration de plusieurs sociétés. Il refusera toute exploitation de son image, condamnant un coiffeur qui avait vendu pour 3 000 $ des mèches de ses cheveux, ou un éditeur qui avait utilisé son nom sur une carte de Noël. Neil Armstrong est décédé le 25 août 2012, des suites d'une opération cardiaque. Le 31 août, tous les drapeaux américains seront mis en berne pour lui rendre hommage, et on donnera son nom à un astéroïde, à l'aéroport de sa ville natale et au centre de recherche de la NASA de la base d'Edwards, en Californie. Sa combinaison spatiale d'Apollo 11 est conservée au Smithsonian Institution à Washington et en 2018 a fait l'objet d'une restauration au laboratoire de cet institut. Dans les affaires de Neil, triées après son décès, on a trouvé, entre autres objets ramenés de cette expédition, la caméra qui avait servi à filmer la descente et l'alunissage. Tous ces objets sont maintenant exposés au Musée national de l'air et de l'espace à Washington. Edwin Buzz Aldrin. Après une grave dépression et avoir sombré dans l'alcoolisme, crise débutée lors de la tournée mondiale qui a suivi leur retour, suivi d'un divorce, il a rebondi et est nommé en 1971 directeur de la base des pilotes d'essai d'Edwards en Californie, de laquelle il prend sa retraite en 1972, puis a développé un département d'astronautique à l'université de Dakota du Nord et un autre au Florida Institute of Technology en 2016. Buzz Aldrin est un fervent soutien des vols habités vers Mars et a proposé une stratégie de voyage vers la planète rouge baptisée Aldrin Sickler. Michael Collins. Il entre à l'école de pilote d'essai d'Edwards en Californie et est sélectionné comme astronaute en 63. Il vole pour la première fois sur Gemini 10 en 64, se déplaçant dans l'espace avec un pistolet à gaz. Il devait faire partie d'Apollo 8, mais un problème médical le fait reporter sur Apollo 11. Il sera l'un des rares humains à ne pas pouvoir voir le premier pas sur la Lune. La presse le surnomma l'homme le plus seul au monde. À quelques minutes du décollage d'Eagle, il aura la hantise de rentrer seul sur Terre. Il quitte le corps des astronautes en 70 et devient secrétaire d'État adjoint sous l'administration de Richard Nixon, avant de devenir directeur du Musée national de l'air et de l'espace à Washington jusqu'en 1979. Puis il fonde Michael Collins Associates en 1985, une société de conseil. Considérant que la réussite de ces missions était le fruit de 10% de planification rigoureuse et de 90% de pur hasard, il a demandé à ce que l'on mette sur sa pierre tombale le mot « Vénard ». Voyons un petit bilan scientifique d'Apollo 11. Première principale de la mission, première leçon de la première mission, se poser et évoluer sur la Lune est réalisable. Les autres missions pourront donc être plus scientifiques qu'exploratoires. Si les roches ramenées sont essentiellement des basaltes, comme sur Terre, trois types de roches nouvelles ont été découvertes, dont l'une, un oxyde de titane, a été baptisée Armalcolite, contraction d'Armstrong, Aldrin et Collins. Depuis, cette roche a été aussi retrouvée sur Terre. Une autre roche a été nommée Tranquilitite, du nom de la mer de Tranquillité où elle a été ramassée. Et la NASA a vendu par erreur, en 1976, trois vidéos d'Apollo 11, dont celle de la descente de l'échelle, filmée par la caméra installée sur le LEM. Ceci pour 700 000 dollars. En ce cinquantenaire, elle cherche à les racheter pour un prix estimé à 2 millions de dollars.
Sur la Lune, un homme se promène avec un lévrier. Sur Vénus, un engin se pose un jour en février. Février 3160, et l'homme tout à coup sidéré, déphasé, désorganisé, entend dans son casque acoustique une chanson de l'époque du Spoutnik, perdue sur une bande magnétique. C'est une petite chanson de rien, je la connais, c'est la mienne. Je l'ai écrite ce matin en attendant la fille que j'aime. Elle dit que nous c'est pour toujours, je ne l'ai pas vue depuis deux jours. Elle dit...
Jean-Jacques, les Américains ont gagné la course à la Lune et pourquoi ne se sont-ils pas arrêtés à Apollo 11?
Les missions Apollo ont aussi pour but l'exploration scientifique de la Lune. Elles sont programmées jusqu'à Apollo 20. L'objectif principal de la seconde, Apollo 12, est maintenant de réussir un atterrissage beaucoup plus précis qu'Apollo 11, qui avait raté sa cible de près de 5 km. L'écart maximum demandé aux pilotes du LEM est de 200 mètres. Et par la même occasion, de montrer au monde entier, et aux soviétiques en particulier, que la technologie américaine est capable d'atteindre une cible avec une précision chirurgicale. N'oublions pas que nous sommes alors en pleine guerre froide, et que quantité de missiles sont pointés des deux côtés sur des cibles potentielles. 5 mois après Apollo 11, Apollo 12 reprend le chemin de la Lune le 14 novembre 1969, pour une mission de 10 jours. À 17h22, heure de Paris, Charles Conrad, commandant de bord, Richard Gordon, pilote du module de commande Yankee Clipper, et Alan Bean, pilote du LEM Intrepid, décolle de Cap Canaveral. Soudain, une lumière blanche est vue à travers des hublots de la cabine, et tous les voyants d'alarme s'allument, et la plateforme d'orientation ne répond plus. Le centre de contrôle est tout près d'annuler l'émission, mais Conrad attend un peu avant de déclencher l'allumage de la tour d'évacuation. « J'ai du courant, lance Bean. 24 volts, c'est peu. » Houston demande de relancer les piles à combustible, mais Conrad décide d'attendre la séparation des étages. Opération faite après l'allumage du deuxième étage, et l'électricité revient dans la cabine. La fusée a été touchée 2 fois par des éclairs. Le premier a déconnecté les piles à combustible, le second a foulé la centrale de navigation. Pourtant, il n'y avait pas d'orage à Cap Kennedy. Ce sont les gaz d'échappement des moteurs, fortement ionisés, qui ont créé un paratonnerre immatériel dans lequel s'est engouffrée l'électricité statique des nuages traversés par la fusée. Leur objectif est la sonde Surveyor 3 qui s'est posée 2 ans plus tôt, le 20 avril 1967, afin de ramener des parties mécaniques et électroniques qui avaient passé plusieurs mois dans un environnement spatial. Conrad a repéré dans la zone qu'il va survoler 4 cratères dessinant un bonhomme de neige. Il doit se poser dans le corps du bonhomme. À 3000 mètres d'altitude, le vaisseau se redresse, face en avant, et Conrad ne met que 4 secondes pour repérer sa cible. « Le voilà !» s'exclame-t-il, donne d'une pipe au beau milieu de la route. C'est tellement fantastique que j'ai du mal à le croire. Il passe en pilotage manuel et pose le LEM à l'endroit prévu, malgré le rideau de poussière soulevé par le moteur. « Bel alunissage, Pete !» lui lance Blin. Il est 7h53, le 19 novembre. Conrad s'est posé à 160 mètres du surveilleur 3. Au-dessus d'eux, Gordon a repéré avec son périscope le site de l'alunissage. Et il dit « Je les ai, j'ai le module lunaire dans mon viseur. » Et il rajoute « Et je vois surveilleur. » Pete et Conrad se devaient de dire quelque chose de significatif en posant le pied sur la Lune, faisant écho à la petite phrase de Neil Armstrong. Comme Conrad a le sens de l'humour, il déclare « C'était peut-être un petit pas pour Neil, mais c'est un bon géant pour moi. » Il rajoute « Les gars, vous n'allez pas me croire. Devinez ce que je vois sur les pentes du cratère. » Et ce à quoi Bean répond « Mon vieux pote surveilleur, non ?»« Eh oui, mon bon monsieur, quel spectacle à moins de 200 mètres. » Alan Bean sort à son tour, mais tout à son excitation, il pointe malencontreusement la caméra de télévision vers le soleil et grille le tube vidéo. Il n'y aura pas de retransmission télé pendant cette mission, même si Bean a essayé de la remettre en marche avec un coup de marteau. Cette deuxième mission est plus scientifique qu'Apollo 11. Richard Conrad et Alan Bean déposent le premier laboratoire automatique d'expérience scientifique. Un sismomètre, un magnétomètre, un spectromètre, pour mesurer la vitesse, les électrons, la direction des électrons émis par le soleil, un détecteur ionosphérique. Il les dépose à 130 mètres du LEM pour que les gaz du moteur de remontée ne perturbent pas les instruments au moment de leur départ. Pendant ces installations, Bean s'étale de tout son long dans la poussière, ce qui lui vaut cette plaisanterie de Conrad. « S'il y a bien une chose que je déteste, c'est de voir mon copilote jouer dans le sable. » Il ramasse aussi quelques roches à 300 mètres du LEM, essentiellement des basaltes, qui placent dans un conteneur, numéro 1. Ces roches, qui seront datées de 3,2 milliards d'années, sont plus jeunes que celles ramassées par Apollo 11. Cette première sortie durera 3 heures. Après une nuit de repos passée dans leur combinaison lunaire, car la NASA craignait que de la poussière ne se dépose sur les joints de leur scaphandre et pose des problèmes d'étanchéité, ils se préparent pour une deuxième sortie. Ils s'éloignent de 500 mètres du LEM et parcourent 2 km, utilisant pour le transport des outils et des sacs de collecte un petit caddie. Les échantillons prélevés sont ceux d'un cratère d'impact, daté de 810 millions d'années, donc relativement jeune. Les astronautes ont du mal à s'orienter, ce qui sera le lot de tous les suivants. En effet, les cartes à leur disposition étaient prises en orbite, et vu du sol, tous les cratères se ressemblent. De plus, en l'absence de référentiel, estimer les distances est un exercice quasiment impossible. Après l'exploration des deux cratères au programme, ils rejoignent Surveyor 3 qui se trouve sur la pente est du cratère baptisé Surveyor, à l'opposé du LEM. Ils font plusieurs photos de la sonde, de laquelle Conrad démonte un câble, des tubes, l'appel du bout du bras mécanique ainsi que la caméra de télévision. Dans un des composants de la caméra, les biologistes retrouveront des micro-organismes apportés par Surveyor en dépit des procédures de décontamination avant le départ et les verront reprendre des couleurs sur Terre, malgré leur exposition durant 2 ans en environnement lunaire. Preuve que ces micro-organismes peuvent voyager d'une planète à l'autre et se réveiller lorsqu'ils rencontrent un milieu favorable. Conrad avait amené en cachette un retardateur pour faire une photo des deux astronautes à côté de surveilleurs, mais impossible de mettre la main dessus. Il n'y aura que des photos de Conrad s'activant à démonter les éléments de surveilleurs. Après 30 minutes passées aux côtés de ce précurseur de la conquête de la Lune, ils rejoignent le LEM. Malgré la demande de Conrad de profiter de 2 heures supplémentaires qu'il juge possible, vu les réserves d'oxygène disponibles dans les équipements lunaires, Houston leur demande de rentrer. Et en rangeant dans la cabine le dernier sac d'échantillons, Conrad retrouve le retardateur, mais il est trop tard pour aller faire une photo de groupe, même devant le LEM. Comme de l'impatience pour tous les deux, ils vont attendre 1 heure le créneau du décollage. Conrad a marché 7h45 sur la Lune, soit le double d'Armstrong, pour 31h31 passées sur la Lune, parcourant avec Bean près de 2 km et remportant 34,3 kg de roches lunaires. Leur retour vers la cabine Apollo s'est passé sans aucun problème, Conrad déclarant « Houston, je dois vous dire que j'adore piloter cet engin ». Après leur transfert dans le module de commande, l'étage de remontée du LEM est précipité sur le sol lunaire afin que les sismographes déposés par les missions Apollo 11 et 12 puissent enregistrer l'impact. Les trois astronautes font pendant une journée des photos des possibles sites d'atterrissage. Après avoir réalisé 45 tours de la Lune, Yankee Keeper reprend le chemin de la Terre et se pose le 24 novembre à 20h58 à proximité du porte-avions Hornet. À l'amérissage, le choc décroche l'appareil de photo de son logement et Conrad en sera quitte pour 6 points de suture. Comme quoi la Terre ou la mer, c'est bien plus dangereux que la Lune. Les géologues déduiront des roches amenées par Apollo 12 que les mers lunaires ont été créées sur de longues périodes et non en une seule fois, comme on le croyait à l'époque, et que la croûte lunaire est le résultat d'un océan de magma. Mais déjà, le public ne se passionne plus pour cette mission, où il ne voit qu'un remake d'Apollo 11. Et comme la caméra de télévision est tombée en panne sur la Lune, les médias s'en sont désintéressés. Peter Conrad va s'occuper du design des vaisseaux spatiaux. Il va se consacrer au programme de station orbitale Skylab, dont il commandera le premier équipage en mai-juin 73. Il sauvera la station en réussissant à débloquer un panneau solaire récalcitrant lors d'une sortie extravéhiculaire. Au retour de cette mission, il quitte la NASA et devient vice-président de McDonnell Douglas. Il meurt dans un accident de moto le 8 juillet 1999, à l'âge de 69 ans. Décidément, pour lui, l'espace était plus sûr que la Terre ferme. Alan Bean sera le commandant du deuxième équipage de Skylab. Il est ensuite la doublure du commandant de la mission Apollo-Soyuz en 1975, puis s'occupe de l'entraînement des astronautes jusqu'à 1981. Il prend sa retraite de la NASA en 1985 et peindra de très nombreuses toiles ayant pour thème les missions Apollo. Il est décédé le 26 mai 2018 à l'âge de 81 ans. Richard D. Gordon sera la doublure de Davis Scott pour Apollo 15 et ensuite, suivant la règle de la NASA, est désigné pour être le commandant d'Apollo 18. Mais cette mission et les suivantes, Apollo 19 et 20, sont annulées en 1972. Il quitte alors la NASA et devient vice-président de l'équipe de football américain des New Orleans Saints, tout en travaillant dans les industries pétrolières et aéronautiques. Il est décédé le 6 décembre 2017 à l'âge de 88 ans.
Première alunissage réussi avec Apollo 11, alunissage de précision réalisé avec Apollo 12. C'est si facile, Jean-Jacques, d'aller sur la Lune ?
Pas tout à fait. Après ce deuxième vol parfaitement réussi, l'attention autour des vols lunaires retombe encore plus. Ça paraissait tellement facile que le public ne s'y intéresse plus vraiment. Les chaînes de télévision américaines diffusent même plus le décollage en direct. Et la presse parisienne écrit que tout cela a l'air d'une mission de routine de 10 jours. Mais un événement va relancer tout ça et montrer que rien n'est jamais acquis dans ce genre d'aventure. Le 11 avril 70, Apollo 13 s'envole à 19h13 en portant James Lovell, Fred Hayes et John Swigert. Le but de cette mission est d'explorer un cratère, Framorau, après les déposer dans des mers lunaires. James Lovell est un vétéran de ce vol. C'est son quatrième voyage dans l'espace, avec deux vols sur Gemini 7 et 12, puis Apollo 8. Et il avait décidé que ce serait le dernier. C'est Ken Mattingly qui aurait dû être à bord, mais il avait été remplacé par John Swigert à cause d'une rougeole contractée par un membre de l'équipage de remplacement. Pour limiter tout risque, Swigert, qui présentait une meilleure immunité à cette maladie, fut choisi. De plus, Swigert est un expert de la cabine Apollo. Tout se passe d'une façon nominale, à part une alerte pour un moteur prématurément éteint. Lorsque les astronautes se livrent à une retransmission télévisée en direct, elle est boudée par les grandes chaînes de télévision. Mais le 13 avril 21h, sur le chemin de la Lune, à 330 km de la Terre, alors que Schwiegert vient de terminer une opération de brassage de l'oxygène liquide des piles combustibles, opération réalisée toutes les 5 heures, la tension électrique baisse dans la cabine. Les astronautes entendent une explosion et une alarme retentit. Ils appellent alors la station de contrôle. « Houston, je pense qu'on vient d'avoir un problème. » « Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» Ce que confirme Lovell avec le devenu célèbre « Houston, we have had a problem. »« Houston, nous avons eu un problème. » Sous-voltage des circuits B. Les astronautes passent les équipements sur le circuit A. Mais immédiatement après, nouvelle alarme. Sous-voltage du circuit A, lance le pilote du LEM. L'information est transmise immédiatement aux épouses des astronautes. C'est Peter Conrad, présent chez Marilyn Lovell, qui décroche à une spéciale installée par la NASA dans tous les foyers des astronautes. Il raccroche, livide, et déclare « Ils ont un sérieux problème. Leur vaisseau est mort. » C'est le réservoir d'oxygène numéro 1 du module service qui vient d'exploser. Et tout le système d'alimentation électrique devient déficient. Le réservoir cryogénique qui alimente le système d'épuration de l'air est percé. Un nuage de gaz entoure le vaisseau. Une fuite fait tourner le vaisseau sur lui-même. Plus question d'aller se poser sur la Lune. Il faut rentrer. Mais la balistique spatiale n'autorise pas le demi-tour sur place. Il faut aller faire le tour de la Lune, rallumer le moteur de retour lorsque le train spatial est du côté de la face cachée et revenir vers la Terre. Et à bord, rien ne fonctionne comme il faut. Ni l'alimentation électrique, ni le recyclage de l'atmosphère, ni le chauffage, rien. Houston appelle. Votre électricité tend vers zéro et on commence à songer au LEM comme canot de sauvetage. Réponse très calme de Schwiegert. Oui, c'est ce que nous pensons aussi. Les trois astronautes se réfugient dans le LEM Aquarius, car celui-ci est fonctionnel, dans un module déjà très petit pour deux. L'orientation du vaisseau et toutes les données de la cabine sont transférées dans le LEM, qui est mis en urgence sous tension. Pour tenir dans le LEM A3 pendant les 5 prochains jours, alors qu'il n'est conçu que pour fonctionner qu'à 2 pendant 2 jours, une vaste chasse au gaspillage est lancée, pour économiser l'électricité et aussi l'eau, qui sert au refroidissement des systèmes. Une fantastique course au système D se met en place, à terre et dans le vaisseau naufragé, pour faire des réparations de fortune avec les moyens du bord, qui sont évidemment très limités. Grâce au génie des mécanos de Houston et de tous les techniciens en charge du programme, à la NASA et chez tous les constructeurs des éléments du train spatial, les astronautes vont arriver à rétablir un minimum de fonctionnalité. De plus, il faut faire une correction de trajectoire avec le moteur du LEM, chose pour laquelle il n'a pas été conçu. Au lieu de les freiner pour se poser sur le sol lunaire, il devra les remettre sur une trajectoire de retour vers la Terre. Le moteur remplira parfaitement ce nouveau rôle. Un test avec le sextant permet de confirmer que le vaisseau est sur le bon chemin. Gardant le moral et le sens de l'humour, Lovell déclare « Nous avons notre ticket de retour » et appelle Houston. « Ok, mise à feu terminée, maintenant il faut que l'on parte de la mise en veille des systèmes et de tout ce qu'on doit faire pour tenir notre cap. » 20 minutes après avoir contourné la Lune, le moteur du LEM est rallumé pendant 4 minutes pour faire une petite correction de trajectoire et mettre le vaisseau de retour vers la Terre en 3 jours au lieu de 4. Cette étape cruciale réalisée, Lovell prévient Houston qu'ils remettent tout en veille. L'ordinateur n'est mis en marche que pour les manœuvres vitales, les astronautes s'éclairent à lampe de poche. Les communications sont réduites au strict minimum sans ampli. La consommation du LEM tombe à celle d'un sèche-cheveux. Remise sous tension prévue 2 heures avant la rentrée dans l'atmosphère, si tout se passe bien. Soit 3 jours à attendre dans le froid avec pas de courant, peu d'eau et l'incertitude sur le comportement de leur chaloup de sauvetage. Et bien évidemment, les ennuis ne sont pas terminés. Au bout d'une heure, une autre alarme retentit. Lovell appelle Houston. Nouvelle alarme principale. J'imagine que c'est la pression partielle des dioxydes de carbone. Gagné. C'est bien cela qui a déclenché l'alarme. Le dispositif de purification de l'air de la cabine a été débranché et celui du LEM est saturé. Solution, remplacer les cartouches du LEM par celles de la cabine. Mais les deux équipements ont été conçus par 2 sociétés différentes sans imaginer leur interchangeabilité. Les cartouches de la cabine sont de section carrée et elles sont rondes dans le LEM. Les astronautes et les techniciennes de la NASA font une liste de tout ce qui est disponible à bord et la NASA imagine un bricolage de génie. Démonter le tuyau de circulation d'air d'un scaphandre lunaire et le brancher entre le système de purification du LEM et une cartouche neuve récupérée dans la cabine, elle-même scotchée au mur et bouchée avec une chaussette. Et ça marche. Si le problème de la respiration est réglé, il reste celui des températures à bord, 5 degrés, dans une atmosphère saturée d'humidité. Pour finir, Houston les informe qu'il va falloir procéder à une nouvelle correction de trajectoire, alors que les gyroscopes sont éteints. Aussi, la cabine est alors orientée à l'aide du périscope du LEM, en prenant comme voyeur le soleil et le croissant de lune, et croissant de terre. Et cette manœuvre de haute volée sera réalisée deux fois, avec le succès que l'on sait. Au bout de 3 jours, déshydraté, frigorifié et épuisé, il regagne le module de commande 2 heures avant la rentrée dans l'atmosphère. La cabine Apollo réactivée, en branchant avec des câbles la batterie du LEM sur celle de la cabine, comme pour faire démarrer une vieille voiture récalcitrante. Ils peuvent larguer alors le module de service et tourner la cabine pour affronter la rentrée dans l'atmosphère. Au passage, ils observent les dégâts sur le module de service en prenant des photos de ce qu'il en reste. « Regardez-moi ça, il y a tout un panneau manquant, de l'antenne jusqu'au moteur fusée », s'exclame Lovell. Et il se poursuit. « Et la tuyau du moteur est touchée aussi, un véritable hasard. » Swigert conclut, c'est tout juste incroyable. Puis leur chaloupe de sauvetage est alors abandonnée dans l'espace. Les astronautes tiennent alors à remercier ceux qui ont assuré leur retour. Nous trois voulons vous remercier, toute l'équipe au sol, pour le beau travail que vous avez effectué, déclare Swigert. Je dois vous dire que nous avons pris grand plaisir à le faire, répond Houston. Reste 5 minutes d'angoisse pendant que la cabine traverse les couches denses de l'atmosphère à 39 000 km/h dans un déluge de flammes. Au début du freinage, toute l'eau du plafond leur tombe dessus, leur faisant bénéficier d'une douche avec de l'eau à moins de 10 degrés. Et il restait une inconnue, l'ouverture des parachutes, les cartouches pyrotechniques ayant pu être détériorées par l'humidité de la cabine. Lovell, au sorti de cette phase plus que critique, annoncera « Ok Joe, ok Joe ». Et ils amérissent sains et saufs le 17 avril, où ils seront accueillis en héros sur le porte-avions Iwo Jima. Lovell interpelle ses compagnons. « Dites, on est toujours vivants. » Puis, « Vous savez, ce vol était vraiment une sacrée aventure. On devrait coucher ça sur le papier. Et on devrait en faire un livre. » Leur épopée a duré 142 heures et 55 minutes. Un film, Apollo 13, retrace cet extraordinaire épisode de la conquête de la Lune. L'analyse de dossiers de fabrication de tous les composants du module de service a permis de comprendre ce qui s'était passé. Lors d'une manipulation dans un hangar, un des 2 réservoirs d'oxygène des piles à combustible est tombé d'une hauteur de 5 cm. Mais cela a suffi pour déformer une valve de purge utilisée après les tests au sol. Les techniciens qui se sont rendus compte que le réservoir n'était pas convenablement purgé ne changent pas la valve, car cela compromettrait le programme de livraison. Ils mettent en place une procédure de chauffage du réservoir pour évacuer l'oxygène résiduel à une température de 50 degrés sous contrôle d'un thermostat. Pour une deuxième manip, ils referont pareil, mais le thermostat avait grillé et la température est montée à 500 degrés, endommageant la gaze isolante des fils électriques. Lorsque Schwigert a mis en marche le brassage d'oxygène, un court-circuit a mis le feu au gaine et au fil, faisant monter la température dans le réservoir qui explose, arrachant les tuyauteries environnantes et le panneau de structure du module de commande. Petite cause, grands effets, application de la loi de Murphy, les exemples abondent dans l'industrie aéronautique ou les compagnies aériennes. James Lovell avait promis à son épouse qu'Apollo 13 serait son dernier vol. Promesse tenue, il sera pendant 2 ans le directeur exécutif du centre de Houston, puis prendra la présidente d'une société de remorquage en mer. Après quoi, il donnera des conférences auprès des étudiants pour les encourager à suivre des études techniques. Fred Hayes sera dans l'équipage de doublure d'Apollo 16 et est nommé commandant de bord d'Apollo 19. Mission annulée. Il travaille alors sur la navette spatiale et fait essais dans l'atmosphère, largué depuis un Boeing 747. Il quitte la NASA en 79 sans revoler sur la navette qui ne prend l'air qu'en 81. Il devient vice-président de Grumman Aerospace, le fabricant du module lunaire, sa chaloupe de sauvetage, jusqu'en 96. Jack Swigert a été nommé pilote de la mission Apollo-Soyuz, mais il a été écarté du corps des astronautes, injustement accusé d'avoir vendu des souvenirs liés à Apollo 13. Il travaillera dans une compagnie minière avant de gagner son élection comme député du Colorado. Il est décédé d'un cancer le 27 décembre 82, 8 jours avant son investiture. Il avait 51 ans. émission, nous verrons comment la NASA, après avoir frôlé la catastrophe avec Apollo 13, clôturera en beauté les missions lunaires d'Apollo 14 à Apollo 17 et fera un petit bilan de cette épopée des temps modernes. Merci pour votre écoute et je vous souhaite rendez-vous dans 2 mois, le 5 septembre 2019, à la même heure. D'ici là, si vous avez des questions relatives au contenu de cette émission, vous pouvez les envoyer à Espace Horizon Inaccessible sur le compte Facebook de Fréquence Mistral. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et vous y trouverez aussi toutes les références des ouvrages qui m'ont permis de préparer cette émission et les précédentes. Cette émission sera disponible sur le site de la radio Fréquence Mistral et sera rediffusée le jeudi 1er août. Merci à François pour la technique et à son équipe pour leur aide et leur accueil. Je vous souhaite une très belle fin de journée.
Merci Jean-Jacques et bon retour sur Terre.